Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de La vie symbolique avec Jonathan Pageau et Jean-Philippe Marceau. Aujourd'hui, j'ai envie de parler du Canada. C'est parce que il y a un article qui est sorti sur le blog en anglais il y a quelques années par Mitch Shervin qui faisait une histoire symbolique du Canada que j'avais trouvé bien. Puis là, maintenant que ces temps-ci, on parle un peu plus souvent de politique puis de la place symbolique maintenant, j'avais envie de revisiter ça. Au moment où ce podcast-ci, vous l'écoutez, je vais avoir sorti une version française de l'article, donc vous allez pouvoir l'avoir sur le blog, puis je vais le mettre dans la description. Donc, j'ai envie d'utiliser ça avec toi, Jonathan, comme début de conversation sur le Canada.
Certainement. J'avoue que je sais pas où tu t'en vas avec ça, mais je suis curieux parce qu'en plus, pour ceux qui sont pas au Québec, notre premier ministre vient de démissionner.
Au Québec, tu veux dire?
Au Québec, oui, c'est okay, ça. Okay, c'est ça. Mitch, au Québec, vient de démissionner. Puis aussi, la question d'identité nationale québécoise, canadienne-française est remis un peu à la sauce, là, est comme revenu à la mode. Alors, toutes ces questions-là, la question du Canada va devenir, dans nos vies, va redevenir une question qu'on va se poser. En tout cas, ici au Québec, c'est sûr. Vous savez que l'Alberta qui fait des démarches pour possiblement aussi avoir un référendum sur notre indépendance. Tout ça nous fait poser la question du Canada, en effet.
Il y a, au début de l'article, en fait, là, ça me rappelle ça, là, Mitch, il dit que le Canada ne tient pas nécessairement ensemble pour des raisons positives très claires, là, mais plutôt parce qu'il y a deux groupes qui se voient pas comme des Américains. Donc, les Canadiens français puis les Canadiens anglais, ils voulaient pas ni l'un ni l'autre être Américains, fait qu'ils sont comme ensemble pour ça. Mais il dit c'est dur de se rappeler sinon comme pourquoi positivement rester ensemble dans un pays.
Oui, en effet. Ben c'est ça qui est intéressant, c'est que tu sais, on peut comprendre qu'en fait, le mouvement d'identification qui s'est fait en Amérique, c'est le mouvement d'identification, c'est vraiment le mouvement américain. Avec la Révolution américaine, il y a comme une sorte d'énergie vers la possibilité de former une nation. Puis, tu sais, souvent on oublie de se rappeler, ou tu sais, on a de la misère à comprendre que, tu sais, l'idée que la Révolution allait arrêter ou ce qu'elle a arrêté, c'est pas quelque chose qui est totalement évident. C'est-à-dire, toutes les colonies, tu sais, les colonies de l'Amérique qu'on connaît, les États-Unis en ce moment, puis les colonies du Canada, c'est toutes des colonies anglaises, tu sais. Et donc, le fait que le Canada est resté le Canada, puis les États-Unis sont nous les États-Unis, ça rapporte aussi avec le fait qu'il y a plusieurs des loyalistes qui sont allés au Canada. Il y a comme toute une histoire, tu sais, en réaction, comme tu dis, aux États-Unis. Puis de cette façon-là, le Canada est un peu une sorte de résistance, dans le fond, à l'Empire américain depuis le début.
Oui, mais il y a des parallèles intéressants à réfléchir. Des parallèles et différences intéressantes à réfléchir parce que sur certains aspects, tu vois plus d'ordre au Canada. Puis là, c'est peut-être en train de changer, mais par exemple, une des images classiques là, de l'expansion vers l'Ouest au Canada versus aux États-Unis, c'est différent. Aux États-Unis, c'est le cowboy qui est comme la figure qui a pas de loi, là, qui se promène librement, fait des trucs dangereux, etc. Puis au Canada, c'est plus la police montée, qui est quelqu'un très ordonné, qui amène disons, l'ordre britannique dans les prairies qui sont pas encore civilisées.
Oui, ben c'est parce que c'est vraiment deux identités. C'est super, c'est assez intéressant d'ailleurs de comprendre ça. C'est-à-dire que les Américains, à cause qu'ils se définissent par une sorte de liberté, puis par l'individualité, puis par la liberté de l'ancien régime royal, ben à ce moment-là, leur vision de le mouvement vers l'Ouest, c'est la découverte. C'est l'utilisation de cette idée-là, c'est un peu l'explorateur, la découverte, l'aventure et tout ça. Puis ça se fait de façon décentralisée, tandis que c'est normal que dans un pays qui est encore une colonie britannique, c'est vraiment plus comme l'idée de l'expansion de l'ordre qui s'avance. Le pire, c'est que, tu sais, à la fin, c'est pas comme si il y a plus de violence d'un côté ou de l'autre, là. Tu sais, T'sais, les scandales et les massacres et tout, ils se font de part et d'autre. Mais le côté mythologique ou la structure mythologique, c'est pas la même. C'est plus, comme tu dis, une sorte de mouvement de l'ordre vers le chaos. Puis l'autre, c'est plus une sorte de comment je pourrais dire, comme un côté aventure, exploration, tout ça. Là. Découverte aussi, l'idée de découvrir l'art aussi, parce qu'aux États-Unis, c'est le Gold Rush qui a amené aussi beaucoup le mouvement vers l'Ouest. Et donc, des gens qui cherchent des opportunités, qui partent chercher des opportunités. Ça, c'est vraiment la mythologie américaine.
Ouais, ouais. C'est intéressant aussi parce que j'ai l'impression que ça change aussi peut-être la façon dont on voit les scandales. Ou au Canada, le genre de scandale qu'on va parler par rapport à l'expansion, c'était comment, disons, les Canadiens ont opprimé les Autochtones. Parce que, tu sais, quand t'as l'histoire, c'est d'une puissance unifiée qui vient imposer, disons, de l'ordre. Mais aux États-Unis, j'entends beaucoup moins parler des scandales que les cow-boys faisaient quand ils allaient vers l'Ouest. Parce que t'avais pas l'impression que c'était comme un gouvernement centralisé qui impose plein de choses.
Oui, mais tu sais, il y a eu des massacres, là. Il y a eu vraiment des grands massacres. Puis, tu sais, il y a eu des déplacements assez horribles dans ce qu'il appelle le Trail of Tears, où malheureusement, je suis pas un expert de l'histoire américaine, mais les Cherokee ont été comme déplacés. Ils ont dû déplacer, puis sont morts en route, où j'ai déplacé. Fait qu'il y a aussi des grandes histoires de déplacements puis de massacres, aux États-Unis. Tu sais, il y a tout le côté aussi, l'idée des Autochtones qui étaient vus comme, on pourrait dire, des gens qu'il fallait chasser. Tandis que les British, ce que je comprends, c'est que les Autochtones ont plus été vus comme des gens qu'il fallait assimiler. Mm-hmm. Et donc, on avait l'idée de, tu sais, tous les scandales qu'on a eu, de prendre les enfants, éduquer les enfants dans la vision occidentale et tout, pour finalement assimiler le peuple dans la nation. Parce que les Britanniques, il y avait quand même l'idée que eux, c'était comme une sorte d'impérialisme culturel aussi. Là. T'sais, si on peut faire que les Indiens en Inde, ils ont nos valeurs, puis nos cultures, puis nos mœurs, ben, t'sais, on va s'entendre avec eux. Puis, toute leur colonisation était un peu basée sur ça. C'est sûr qu'il y avait un côté de prendre les ressources et tout comme partout, mais les colonies, disons, les British, il y avait parce qu'il y a un désir de vouloir comme enseigner puis amener le sorte d'ordre. Pour le bien et pour le mal, là, des fois, c'est assez... T'sais, les colonies en Afrique qui sont britanniques, ils sont beaucoup plus fonctionnels que les colonies françaises puis les colonies belges et tout. Mais au Canada en particulier, bien, ça a donné aussi des scandales d'assimilation forcée. Mais l'assimilation forcée aussi, il faut se rappeler que c'était pas juste les Autochtones, c'était aussi nous. C'est-à-dire, les francophones, il y avait des désirs d'assimiler les Canadiens français. Il y a eu aussi éjecté les Acadiens. Mais il y avait comme un désir de conformer les gens à la vision britannique.
Oui, puis il y avait le genre de confiance qu'il allait réussir. Là. C'est bon.
Ben, ouais, on... Il n'avait pas compté sur la démographie catholique. Il n'avait pas compté sur les catholiques qui ont beaucoup d'enfants. Puis que là, les protestants avec trois enfants, ils n'arrivaient pas à prendre le dessus sur les catholiques. Là.
C'est un autre aspect dont on peut parler, là, l'aspect français et anglais au Canada. Disons, une des thèses centrales de l'article, c'est que le Canada reste un État liminal, où on va toujours être comme en deux identités. Puis on le voit à plusieurs endroits, là, notamment dans le fait qu'on reste un pays hybride avec culture française, culture anglaise, puis maintenant en plus plein d'autres cultures avec l'immigration. Donc cette idée d'hybridité-là, mais dès le début, t'as quand même des images similaires à ça. Fait qu'on peut y aller un peu chronologiquement, là, mais disons, des explorateurs qui arrivent d'Europe puis viennent s'installer au Canada dans une terre essentiellement sauvage, là, pas disciplinée encore, mais t'as cette image-là que t'arrives dans un monde chaotique, tu viens planter la croix, là, fameusement quartier qui vient planter une croix à Gaspé pour commencer à établir de l'ordre là. Mais cette image-là de, disons, une terre sauvage dans laquelle tu viens t'implanter, ça va comme suivre le Canada ensuite. Donc, une autre chose dont on peut parler, que je n'avais pas réalisé.
Cette idée-là mais tu sais, au niveau symbolique, c'est quand même intéressant d'y penser. Tu sais, c'est des questions qui sont difficiles, parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de... Surtout dans l'éthique qu'on a en ce moment, tu sais, il y a beaucoup de violence qui vient à la fin de ces visions-là. Mais il y a comme une version symbolique qui est un peu universelle, puis c'est l'idée que l'étranger, il n'est pas humain, tu sais, il est comme moins qu'humain. Puis ça, c'est une impression qui n'est pas du tout liée à la race de la personne. Ça dit, c'est pas vrai que c'est juste les Européens qui pensent comme ça. Il y a vraiment une vision universelle. Moi, quand j'habitais en Afrique, j'ai souvent rencontré des gens qui me parlaient, par exemple, des pygmées comme étant des animaux. C'était vraiment juste normal de parler des pygmées comme s'ils étaient des animaux. Puis donc, il y a comme cette espèce d'imagerie-là de l'étranger comme quelque chose qui est comme l'idée du barbare, là, la langue qui sonne comme un jappement de chien. C'est que l'étranger, surtout l'étranger extrême, représente le chaos. Il représente un chaos qu'on doit arriver à résoudre. T'sais. Puis, c'est sûr que dans le cas de l'explorateur, puis dans le cas du Canada, puis des États-Unis, puis beaucoup des colonies, l'idée, c'était de résoudre le chaos de l'étranger par une sorte d'assimilation. C'est-à-dire que c'est ça, nous, on est ceux qui ont l'ordre, on amène l'ordre à des personnes qui sont sauvages, entre parenthèses, puis là, on va appliquer notre ordre à ces groupements-là. C'est pas comme si les chrétiens aussi, c'est les premiers à faire ça. L'Empire romain avait un peu cette vision-là aussi. Ça dit, il y a les barbares là, en Angleterre ou dans le nord de la France. Là. Il faut les civiliser, là. Il faut aller leur apporter la civilisation. Fait que c'est quand même important de comprendre le côté symbolique de ça. C'est, cet aspect-là symbolique qui se représente dans les mythologies ou dans les anciennes cartographies. T'sais, l'ancienne cartographie de Pline, Elle manifestait ça exactement comme ça. C'est-à-dire, au bord du monde, il y a quoi? Il y a les monstres, il y a les hommes à tête de chien, il y a les géants, il y a tous les genres d'êtres qui sont incomplets ou qui sont trop ou qui sont pas assez parce que ça représente, dans le fond, le chaos. Là, c'est ça que ça représente.
Ouais. On peut en parler dans plusieurs aspects précis, là, tant qu'à y être, où ben, de un, tu arrives au Canada, puis il n'y a pas des grosses villes comme tu avais en Europe. Là. La terre elle-même est plus sauvage, même sans parler des humains là, qui sont là, puis de la façon dont ils vivent, là, en tant que tel, tu es plus dans un monde chaotique. Il y a aussi le fait que la façon dont les gens vivent, il y a beaucoup de nomades au Canada. Il y a des gens qui sont sédentaires, mais ils n'ont pas des pratiques très ordonnées. Là. Donc, tu sais, il y avait différents peuples, puis ils se battaient souvent, puis il n'y avait pas beaucoup de lois. Puis, je suis en train d'écouter un livre de Samuel de Champlain où il raconte comme ces différents voyages qu'il a fait. Puis, tu sais, les gens, il n'y avait souvent pas de. En fait, le fort des peuples dont il parle, là, ils n'ont pas de Dieu, par exemple, ils n'ont pas de loi. Les gens font comme un peu qui leur semble bon, puis ils sont pas des immenses groupes, fait qu'on dirait qu'ils n'ont pas de très grandes structures pour les tenir ensemble. Et bon, il y a plein de choses, disons, chaotiques qui sont pas associées à la civilisation dans le Canada quand les Européens arrivent. Puis c'est, je pense, naturel de vouloir les sortir de là. Aussi le fait que, tu sais, l'hiver, c'était comme Champlain, il trouve ça misérable, la façon dont les Autochtones passent l'hiver, là, où il y en a plein, ils manquent de faim. Là, ils pognaient pas autant de scorbut que les Européens qui n'étaient pas adaptés à ça, mais ça c'était quand même désespérant. Fait, il y a quand même une vie que les Européens reconnaissaient comme étant moins civilisée, là, plus proche d'un état ancestral où tu es proche de la terre puis c'est difficile, etc.
Oui, mais c'est ça. Je pense que c'est bon de montrer les deux côtés de la chose, tu sais, c'est-à-dire la réalité, c'est autant pour l'Empire romain que c'est pour, les colonies occidentales. C'est-à-dire que il y a un aspect de l'ordre qui apporte une sorte de structure, tu sais, puis comme une sorte de comment je pourrais dire, comme une sécurité qui apporte aussi une réduction, disons, des conflits là, radicaux. Là, t'sais, l'idée de juste, tu peux juste tuer n'importe qui, puis il y a pas vraiment de conséquences à part des vengeances. Et puis, c'est une sorte de cycle de vengeance aussi qui peut arriver dans des situations tribales. C'est ça. Fait qu'il y a tout ce côté-là qui est quand même réel. L'éducation, l'hygiène, la littérature, l'idée d'apprendre, d'avoir une langue écrite. Tout ça, c'est des choses qui sont extrêmement positives. Mais il faut l'admettre que ça vient aussi avec une sorte de violence, t'sais. Parce que, t'sais, si c'était vrai que l'ordre n'était que bon, ben il n'y aurait pas de résistance. C'est-à-dire, le fait qu'il y a une résistance, ce que ça démontre, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui ne va pas dans le système, t'sais. Par exemple, tu sais, je donne un exemple de, pour moi, selon qui est vraiment une alternative, c'est-à-dire que quand, par exemple, le christianisme entre en Gaule ou entre, tu sais, dans certains endroits, ben, tu sais, ça prend le dessus, puis ça devient, disons, le narratif civilisationnel. Les gens l'acceptent, ils l'assimilent. Tu sais, par le temps que les Francs, par exemple, arrivent au Moyen Âge, ben, ils parlent le latin, puis ils sentent pas mal, ils ont pas l'impression qu'ils perdent quelque chose de parler le latin. Il y a pas un sentiment de résistance à certains aspects, disons, de cette acculturation-là. Tandis que ce qu'on voit, disons, chez les Autochtones qui étaient ici, c'est qu'il y a une résistance. Et donc, il y a comme un 50-50 dans la proposition. C'est-à-dire, d'un côté, il y a des choses qui ont vraiment apprécié puis qui ont pu assimiler. Puis, il y a d'autres choses auxquelles qui l'ont vécu possiblement trop comme une sorte de violence, puis qui l'ont résisté, tu sais. Puis c'est la même chose aussi avec les Canadiens français, c'est-à-dire quand les Anglais ont voulu instaurer leur civilisation sur nous, c'est sûr que nous, on n'était pas, tu sais, on avait déjà une civilisation qui était quand même plus, tu sais, qui avait la littérature, qui avait et tout, mais on l'a refusé, c'est-à-dire on a refusé parce qu'il y avait des choses qui nous appartenaient, qu'on voulait garder, tu sais. Fait que je pense que c'est ça, c'est intéressant de voir les deux côtés de la civilisation, puis aussi exceptionnel, tu sais, de façon remarquable au Canada, tu sais, comme quoi qu'il y a encore des Autochtones, puis ils se voient encore comme des Autochtones, ils ont pas tout à fait accepté le modèle civilisationnel qu'on leur a offert, en partie possiblement à cause de la violence qui venait avec, en partie aussi parce que, possiblement aussi à cause du fait qu'ils sont d'apparence différente, ils allaient toujours se sentir comme étant exclus, tu sais, peu importe, ça dit oui, je vais accepter votre truc, mais parce que tu peux me reconnaître physiquement, tu vas toujours savoir que je suis pas un des vôtres, tu sais, puis ça crée un problème. Là, je fais de la spéculation, là, mais c'est clair qu'il y a eu comme une sorte de résistance, disons, au modèle civilisationnel que les Européens ont présenté.
Ouais, sur la vision, ça me rappelle une chose que Champlain avait dit. Là. Il avait parlé à, je m'en rappelle pas qui, là, un des chefs autochtones, puis il disait « Nos fils épouseront vos filles, nous serons un seul peuple. » Il y avait quand même l'idée, la façon dont Champlain faisait ça, c'était pas vraiment une imposition. Il se promenait comme avec quelques gars, puis il allait voir plein d'Autochtones, puis il les aidait comme dans leur guerre, puis en tout cas, c'était comme très personnel, disons. Là. Puis il y avait quand même une idée de comment t'allais finir par unifier les peuples, ultimement. Ouais,
mais c'est intéressant parce que quand tu dis ça, tu sais, moi, la première histoire qui me vient à l'esprit, c'est le viol de Dinah, tu sais. Parce que dans l'histoire du viol de Dinah dans la Bible, c'est ça que t'as. C'est-à-dire qu'il y a comme une violence originale qui arrive. Puis là, après ça, ben là, il y a comme un désir de dire oui, mais après, on va s'unifier ensemble, dans le fond, tu sais, on va se mettre ensemble et on va travailler ensemble. Puis là, à cause de ça, puis il y a aussi l'idée aussi que les fils de Hamor, ils mentaient, en fait. T'sais, dans le fond, ils disaient, on va prendre leur truc, dans le fond. T'sais, on va s'unifier avec eux, mais ce qu'on pense vraiment, c'est on va prendre leurs affaires. T'sais. On va se marier, mais après, ça va être juste nous. Et donc, c'est ça. La question, c'est est-ce que c'est ça? T'sais, est-ce qu'il y a eu comme... T'sais, le désir d'unifier les peuples, il a été comme confronté à une sorte de réalité de violence qui faisait que les Autochtones, à un moment donné, ont réalisé que, OK, non, ils veulent pas s'unifier avec nous, ils veulent nous avaler, tu sais, ils veulent juste complètement nous avaler. Je sais pas, tu sais, c'est juste que je vois des précédents de cette situation-là dans la Bible, tu sais. Puis moi, pour moi, c'est quand même aussi un tu sais, c'est une question que le Canada, il arrive pas à résoudre, tu sais, la question de comment on fait, tu sais, maintenant qu'on est dans cet arrangement-là, tu sais, aussi par rapport à nous, par rapport aux Canadiens français, par rapport aux Autochtones, on a comme une sorte de on a comme une sorte de diversité qui n'est pas nécessairement totalement unie. Tu sais, je veux dire, les gens, ils savent, le Québec n'a jamais signé la Constitution canadienne. Et donc, on est en théorie, t'sais, si on était vraiment très, très, très strict, on pourrait dire que le Québec n'est pas dans la Constitution canadienne. Même si en pratique, on l'est, là, mais...
Ouais, je suis pas rendu assez loin dans l'histoire du Canada dans les détails pour savoir qu'est-ce qui a marché et qui a marché exactement. Là. Mais un truc que j'entrevois déjà, c'est qu'à un moment donné, il a fini par avoir des conflits entre les puissances européennes au Canada qui ont mené des difficultés dans certains plans, mettons que Champlain avait, là, où, par exemple, je sais qu'au début, il aidait les Autochtones autour de lui, certaines nations autochtones autour de lui, à aller comme en guerre contre les Iroquois. Puis au début, c'était facile parce qu'il était le seul avec des fusils. Fait que ça prenait pas grand-chose pour que les autres aient peur. Puis en tout cas, même si là, il y a encore des trucs d'ordre, là, parce que Champlain, il capotait parce que les Autochtones, il n'y avait pas d'armée comme régimentée comme les Européens. Fait que Champlain, lui, savait comment faire la guerre. Puis là, il voulait comme, tu sais, gérer les gens comme, OK, strictement là, comme tu fais dans...
Le militaire, là, ouais.
Puis les Autochtones, ils voulaient rien savoir. Fait que là, quand il arrive dans des vrais combats, là, c'est le chaos. Champlain, il est découragé. Là. Tu vois, dans son livre, il sait très bien qu'il pourrait gagner là, s'il faisait juste l'écouter. Là. Mais en tout cas, ça ne fonctionne pas du tout. C'est assez comique. Mais... À un moment donné, j'entrevois que ça finit par être difficile parce que là, il y a aussi les Britanniques qui vont armer comme d'autres nations. Puis là, les combats deviennent comme finalement beaucoup plus compliqués. Puis je pense que les plans de Champlain ne marchent pas exactement comme il est prévu. Mais bon, on pourra reparler des détails plus tard. Là. J'ai encore beaucoup de lectures à faire là-dessus. Puis on va essayer d'inviter des gens aussi qui connaissent ça. Mais là, je vais retourner à l'histoire globale du Canada, parler d'autres symboles. D'État liminal du Canada. C'est sûr qu'il y a aussi le fait que les Européens arrivent dans le fleuve, puis ils restent toujours proches du fleuve. Puis le fleuve, c'est un espace estuaire là, entre l'eau douce puis l'eau salée. Puis après ça, ça mène à plein de rivières là, que tu vas toujours utiliser pour te déplacer au Canada. Aujourd'hui, on fait plus ça parce qu'on a des routes puis on ne pense plus. Mais avant, l'idée que le Canada, t'es comme toujours un hybride, là, comme un castor même. T'es comme entre la terre puis l'eau, puis tu utilises toujours du bois. C'est quelque chose qui était comme évident pour tout le monde. Avec les coureurs des bois en plus qui sont hybrides. Ce sont des Européens, mais ils vivent aussi avec les Autochtones, ils chassent les forêts, etc. Fait que t'as beaucoup de figures d'hybridité au début du Canada quand les Européens viennent s'implanter.
Oui, mais c'est un peu normal aussi que c'est ça qui arrive. Puis aussi, c'est-à-dire, là, un peu à l'opposé du cowboy, tu sais, notre coureur des bois, il est plus un peu comme un cowboy, tu sais, au début. Puis il y a comme aussi un côté d'exploration, puis de découverte, puis de ressources et tout. Puis il faut se rappeler que, tu sais, là, contrairement à ça, aux États-Unis, tu sais, la première colonie, c'est des puritains. C'est pas des coureurs des bois, là. C'est, dans le fond, c'est des gens qui veulent construire une sorte de société alternative totalement isolée, totalement pure, totalement chrétienne, tu sais, dans tous les ses aspects, puis très... fait que là, t'as comme un oui, ça, t'as une différente vision là, de comment la relation se fait, là.
C'est vraiment intéressant, je n'avais pas fait... ce parallèle-là, comme, disons, le champ de chiasme là, qui se passe, là, où au Canada, au début, c'est en plus des explorateurs cowboys, puis ensuite, ça finit par être,
l'Empire britannique. Ça dit, quand ça devient l'Empire britannique, c'est là que ça change. T'sais, au début, chez la France, elle n'a pas. T'sais, l'idée de faire une colonie ici, c'est comme. C'est possible, mais c'est vraiment compliqué, là. Puis, c'est pas. Les gens meurent, tout le monde meurt le premier hiver, puis il n'y a pas de femmes, puis il fait froid. Là.
Ouais.
C'est pas comme descendre. Quand tu descends en Virginie, là, des hivers super doux, ouais. Ils ont eu de la misère aussi, là, mais ça n'a rien à voir avec Québec, la ville de Québec ou dans le fleuve Saint-Laurent en plein milieu de l'hiver. Là, c'est ouf.
Ouais, ouais. Les gens restent gelés, puis là, ils hivernent là, puis là, il y a plein de gens qui ont le scorbut, ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Puis. Ils sont pris là quelques mois. À un moment donné, les gens guérissent rendus au printemps. C'était très mystérieux. Là. Mais Champlain a essayé de faire ultimement, je ne me rappelle pas c'est quoi toutes les étapes exactes, mais il avait essayé d'apporter des religieux à un moment donné dans un de ses premiers voyages, mais il n'était pas vraiment prêt pour ça. Là. Ils ont trouvé ça pas mal rough là, au début, mais après ça, en 1935, je pense qu'il y a des jésuites qui sont arrivés, puis eux autres étaient prêts. Des gens assez au calibre dans comme toutes les disciplines, là, puis eux autres, ils ont réussi à faire quand même quelque chose de bien. Puis apparemment, à ce moment-là, la ville de Québec était comme gérée un peu comme presque comme un monastère là, toute la ville par Champlain. Fait. Ça, il faut que j'étudie ça plus. Il y a quelque chose qui me rappelle un peu les puritains là, mais j'ai l'impression que c'était pas aussi rigide puis strict là. C'était quand même des catholiques, c'était pas des puritains.
Oui, ça. Puis c'est intéressant. C'est quand même intéressant aussi. Ça, c'est quelque chose de Champlain que souvent les gens connaissent pas. Que c'est un homme de foi vraiment. C'est un homme religieux. Il était pas. Il avait pas seulement des ambitions mercantiles ou quoi que ce soit. Il avait comme une vision dans le fond. D'apporter l'Évangile, d'apporter la foi ici.
Ouais, quand je lis ce qu'il écrit, ça semble être ça, le motif principal. Il y avait beaucoup de marchands. Ben, ça vaut la peine d'en parler plus. ça aide peut-être à comprendre un peu l'opposé que tu as souligné entre le fait que disons, les puritains sont aux États-Unis puis au Canada, c'est plus des coureurs des bois. Là. Ça semble être plus des motifs économiques qui font qu'il y a des gens qui viennent s'installer au Canada. Comme c'est juste ça, peut-être parce que c'est trop hostile. Donc, si tu peux fonder une colonie religieuse, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour aller là, parce que c'est dur juste de survivre. Là. Il y a des bonnes chances que tu passes pas l'hiver et que ça prenait peut-être d'autres genres de motivation, mais je sais pas. T'as-tu pensé plus à ça?
Excuse, répète la question parce que ça allait couper.
Ouais, mais t'as-tu déjà pensé plus à ça? Tu sais, comment ça se fait qu'il y a cette opposition-là entre les puritains puis les
disons, non, mais je pense que c'est la raison pour laquelle les États-Unis y existent. Là. Puis c'est probablement aussi la raison pour laquelle la révolution, elle se fait là. T'sais. C'est-à-dire la révolution se fait pas dans le Canada, ouais, même quand les Britanniques arrivent au Canada, parce que là, c'est vraiment, comment ça s'appelle, la baie du Tson, la grande compagnie qui est comme liée avec le gouvernement britannique et tout, c'est plus comme vraiment une sorte de bras de l'Empire britannique, tandis que les premières colonies américaines, ils sont déjà en opposition à la... au règne de l'anglicanisme en Angleterre. C'est déjà des gens qui cherchent un peu à s'éloigner puis à se libérer des structures de l'Empire, tu sais. Fait que ça, tout ça, c'est quand même toutes des choses qui sont intéressantes à penser. Qu'est-ce qui fait que tu sais, fait que dans le fond, nous, notre statut de nation comme le Canada, c'est pas une identité forte parce qu'on n'a pas eu le genre de mouvement de libération que les Américains ont eu. On a juste, à un moment donné... T'sais, on a été comme... Les Anglais ont comme dit, c'est compliqué, on peut s'en occuper. Là, vous êtes une nation, mais on a encore... en théorie, c'est le gouverneur général qui est en théorie le chef du gouvernement. Même si c'est un truc symbolique, c'est quand même de ça notre structure. T'sais, on a un système parlementaire, on n'a pas de président, on a le gouverneur général qui est censé représenter la couronne ici au Canada. Fait que tout ça, ça fait que... Il y a comme une sorte d'ambiguïté de notre existence. Puis, tu sais, le problème d'avoir des Français ici, des Français catholiques dans l'Empire britannique, tout ça, c'est très compliqué. Souvent, il faut se rappeler que la différence entre les Français et les Anglais, c'est tout d'abord une différence religieuse, avant d'être une différence linguistique. C'est la différence religieuse qui causait plus le problème. Pour la même raison qu'aux États-Unis, dans les colonies, ils ne voulaient rien savoir des catholiques. Ils ne voulaient pas de catholiques dans leur colonie parce que d'avoir des gens d'une autre religion, c'était beaucoup plus compromettant que d'avoir des gens qui parlaient d'une autre langue. Quand les Irlandais sont arrivés au Québec avec la famine, les Irlandais ont été, en général, ont été assez bien reçus, assez bien assimilés dans la société québécoise. T'sais, tu peux aller ici, là, juste à côté de chez nous, à Deux-Montagnes, il y a encore une grande communauté d'Irlandais. Ils font plein de trucs, ils fêtent la Saint-Patrick, ils font la parade du Père Noël. Il y a beaucoup d'anglophones encore qui sont là. Il y a même deux églises catholiques, une en face de l'autre. Il y a une église, carrément, deux immenses églises catholiques, une en face de l'autre sur une route. Une église francophone, une église anglophone. Puis, tu sais, le fait qu'ils ont construit une en face de l'autre, c'est pour montrer aussi qu'il n'y avait pas d'hostilité ou de c'est plus une sorte de collaboration. Puis ça, c'est important de comprendre aussi. C'est ça, une des choses qui fait le côté fragmenté du Canada, c'est aussi la différence religieuse qu'on a eue.
Ouais, on va y revenir. Là. J'avais juste une dernière hypothèse sur l'opposition entre les puritains aux États-Unis puis les courants des bois au Canada. C'est le fait qu'on n'a pas une révolution. Je me demande si c'est pas, c'est beaucoup le fait qu'on était tellement dépendant de ressources européennes pour vivre pendant longtemps. Là. Tu peux pas faire de révolution facilement au Canada quand tu as tout le temps besoin du roi, mettons, qui t'envoie des ressources là, parce que tout le monde meurt l'hiver. Puis tu as tout le temps besoin d'un nouveau colon. C'est sûr qu'on était comme plus attaché pendant longtemps au pouvoir européen. Fait que ça fait une distanciation beaucoup plus lente. Là.
Oui, ça. Puis aussi, ça a pris du temps ça a pris un peu plus de temps qu'on ait des femmes. Là. Quand les puritains quand ils sont arrivés sur le Mayflower aux États-Unis, c'était des familles. Il y avait déjà des enfants, des femmes, des adultes. Tandis que nous, c'était compliqué d'amener des femmes ici, tu sais, pour que ça puisse devenir une vraie colonie, puis pas juste un groupe d'aventuriers qui cherchent à faire de l'argent.
Ouais. C'est bon, parfait. Ben, c'est ça. Après avoir discuté, disons, le symbolisme du début du Canada, puis des figures liminales, Mitch Shervin va parler justement l'opposition français-anglais, qui c'est pas quelque chose qui a été vraiment réglé, là. Comme tu avais mentionné plus tôt, c'est la révolution américaine arrête à un certain moment, les loyalistes s'en vont au Canada, les Canadiens français font partie de l'Empire britannique, mais les Britanniques veulent les assimiler. Finalement, les catholiques font tellement d'enfants qu'ils restent quand même un bloc assez uni. Mais après ça, les deux côtés francophones et anglophones sont unis juste par le fait qu'ils ne sont pas américains.
Oui, mais c'est fascinant de penser en fait qu'aussi, nous, au Québec, on avait aussi des loyalistes. T'sais, les gens, ils connaissent peut-être pas cette histoire-là, mais une des choses qui est arrivée, c'est qu'au moment de la Révolution française, les prêtres qui étaient royalistes et les évêques qui étaient royalistes, les gens qui étaient plus pour l'Ancien Régime, il y en a beaucoup qui sont venus au Québec. D'ailleurs, beaucoup des objets religieux qu'on a au Québec, c'est carrément des prêtres qui, pendant les révolutions, les gens qui venaient saccager les églises, ils ramassaient les calices, ils ramassaient les tableaux sur les murs, ils les mettaient sur un bateau puis les envoyaient à la colonie. Parce que ici, nous, on a résisté, dans le fond, à la Révolution. Et donc, la culture québécoise, il faut la comprendre beaucoup comme aussi une sorte de réaction à la Révolution. On peut comprendre certaines de ses caractéristiques aussi, là, comme l'hypercatholicisme du Québec était probablement en partie aussi lié à ça, là, au fait que le Québec a agi comme une sorte de contre-révolution à la France. Et donc, c'est intéressant de penser qu'au Canada et dans la communauté francophone et dans la communauté anglophone, on avait des loyalistes, tu sais, c'est-à-dire les Français étaient loyaux, disons, plus loyaux au roi puis au principe de royauté puis de l'Église en France. Puis les Anglais ici étaient loyaux à la royauté britannique. Puis tu sais, ça serait intéressant de savoir, moi, je ne sais pas, tu sais, quand est-ce qu'il y avait... Moi, je sais que, par exemple, ma grand-mère, elle était une grande admiratrice de la reine. T'sais, la reine Élisabeth II. Même s'il était francophone, même s'il était québécoise, elle avait comme un grand amour pour la royauté britannique. Mais je sais pas, t'sais, parce que c'est difficile, notre vision est tellement teintée par la Révolution tranquille ici au Québec que ça serait intéressant de se poser la question si les francophones, malgré leur genre désir de résister à l'anglicisation puis devenir protestants, s'il n'y avait pas quand même une sorte de affinité naturelle vers la royauté.
Oui, je serais vraiment curieux. Je connais pas ça assez.
Ouais, là, c'est vraiment... Là, je tombe de... Tu sais, je prends une expérience personnelle pour essayer de trouver un pattern, là, mais c'est quand même intéressant à remarquer aussi, tu sais.
Oui. Mais tant que tu parles du Canada, j'aurais une question en général sur laquelle je travaille ces temps-ci parce que j'essaie de comprendre pourquoi... Il y a beaucoup de jeunes qui deviennent nationalistes assez récemment, puis j'essaie de comprendre. Des fois, je pense que c'est très intuitif, là, mais j'essaie de comprendre aussi les raisons intellectuelles derrière. Puis c'est, on dirait, le plus gros contre-argument que j'ai quand je pense à tout ça, c'est le fait que des fois, je me demande si c'était pas bien que les Britanniques nous colonisent, parce que les anciennes colonies françaises, souvent, c'est des pays où ça n'a pas très bien été après. Puis les anciennes colonies britanniques, ça avait l'air mieux. Donc, je suis peut-être plus content. Puis je me demande si je sais pas, l'ordre là, qu'on a eu des Britanniques, là, c'était peut-être pas une bonne chose de cette façon. C'est provocateur, comment je le dis, mais c'est une question derrière.
Oui, c'est compliqué. C'est des questions qui sont compliquées, t'sais, parce que un des problèmes qu'on a eu, c'est que il y a eu la Révolution, mais aussi quand il y a eu le legs du Québec aux Britanniques, t'sais, nous, là, c'est le contraire qui est arrivé, c'est-à-dire nos élites sont parties. T'sais, les Québécois sont devenus vraiment comme c'était juste des paysans, des bas clergés, c'était tous des gens qui manquaient d'éducation, qui sont restés au Québec. Fait qu'il y a comme ça aussi. Puis le problème qu'on a eu, c'est que une des raisons pour la Révolution tranquille, c'était parce que c'était juste des Anglais qui avaient tout le pouvoir au Québec. C'est jusque dans les années 40, dans le temps de Duplessis, dans le fond. C'est comme si, en fait, malgré qu'on appelle Duplessis la grande noirceur, c'est quand même Duplessis qui a sorti le Québec du joug, même s'il le fait en collaboration avec eux et tout. C'est ça, la peinture du Québec, c'est ce moment-là où il y a comme une sorte de d'identification plus claire de qui on était, là. Mais ça, c'est une réalité aussi. C'est-à-dire, oui, probablement, comme tu dis, il y a eu quelque chose de bien qui a amené une sorte de discipline et d'ordre, mais il y avait aussi un ressentiment qui était réel, là, qui n'était pas un ressentiment de voir que les gens qui règnent sur toi, ils sont... C'est intéressant parce que, tu sais, c'est super intéressant de voir les jeux dans l'histoire, hein, parce que, tu sais, c'est ce qui est arrivé en Angleterre en passant. Tu sais, c'est-à-dire que pendant des siècles, c'était l'aristocratie anglaise parlait français, c'est-à-dire c'était des Normands qui parlaient français à la cour, puis qui étaient beaucoup plus en relation avec la royauté française, et le peuple parlait l'anglais. Puis là, nous, au Québec, on a vécu le contraire, c'est-à-dire que notre élite était anglophone, puis nous, on était un peu le...
Ouais. C'est vraiment compliqué, là. J'ai de la misère à démêler tout ça aussi, parce que disons, une des choses qui a fait que l'empire britannique a pris le dessus, puis que maintenant, c'est tout le monde qui parle anglais, là, c'est la révolution industrielle qui est arrivée dans l'empire britannique. Puis, j'avais déjà entendu comme une bonne explication pourquoi c'était pas arrivé dans un pays catholique ou aux frères orthodoxes aussi. C'est que, disons, il y avait certaines choses qui étaient nécessaires au début de la révolution industrielle qui n'auraient pas été tolérables dans des pays où, mettons, tu sais, tu donneras beaucoup de valeur aux pauvres. Tu n'aurais pas accepté les conditions du début de la révolution industrielle, mais une fois que les Britanniques ont réussi à passer par-dessus ça, après, ils étaient comme pas arrêtables économiquement. Là, parce qu'ils produisaient juste tellement plus que tout le reste qu'ils ont fini par conquérir la moitié du monde.
Oui, ça, mais c'est ça aussi, c'est vraiment super intéressant, tu sais, parce que, en fait, c'est vrai, tu sais, que c'est clair que les révolutions industrielles sont arrivées toutes dans les pays, puis surtout protestants. Tu sais, je dis la différence après les révolutions industrielles, tu sais, tous les pays comme l'Espagne comme recule, la France recule, l'Italie recule. Tu sais, il y a quand même un petit effort là, tu sais, avec Mussolini, mais finalement, c'est vraiment les pays anglophiles puis de style allemand puis anglais qui gagnent cette affaire-là. Mais ça va être intéressant de voir aussi à long terme, tu sais, parce que t'sais, un exemple qu'on voit en ce moment aux États-Unis qui est assez fascinant, c'est que t'sais, pendant longtemps, les catholiques étaient gardés à l'extérieur du système politique américain complètement. Là, t'sais, quand John F. Kennedy est devenu président, c'était vraiment un scandale d'avoir un catholique comme président. Puis l'idée que les catholiques avaient une place dans la société américaine, c'était vraiment difficile. Mais là, ce qu'on voit, c'est comme une sorte de renversement où, au contraire, il y a comme dans les élites intellectuelles puis dans les élites culturelles, les gens se convertissent au catholicisme. T'sais, il y a J.D. Vance, c'est l'exemple le plus marquant. Là, t'sais, lui, il n'est pas né catholique. C'est-à-dire, lui, il était protestant, t'sais, évangélique ou t'sais, sans trop être pratiquant. Puis finalement, il s'est converti au catholicisme. Puis on voit beaucoup de ça dans les élites intellectuelles américaines. Fait que ce qui va être intéressant de voir comment que... Puis beaucoup de gens là, de la Nouvelle Droite et tout, c'est tout des catholiques ou des orthodoxes. Fait que ça va être intéressant de voir comment que malgré l'espèce de moment, disons, de révolution industrielle, à long terme, comment les structures vont se dessiner.
Ouais, okay. Donc, pour retourner au Canada, après, en même temps environ que la révolution industrielle aussi, là, c'est que le Canada est rendu, ben, c'est un peu unifié, mais c'est le Canada français, le Canada anglais, puis les Anglais, l'Empire britannique comme s'impose, puis va s'étendre vers l'Ouest. Puis, on en a déjà parlé un petit peu là, de comment ça va se passer. Après ça, peut-être une des choses qu'on peut mentionner aussi que Mitch va dire, c'est le carré. C'est simple, mais comme le carré, où il y a beaucoup de choses carrées chez les Britanniques. Ils vont faire les prairies, vont les découper en cantons carrés. Le drapeau, c'est des carrés. Là, de cette l'image très, très simple de l'ordre là, sur une nature sauvage. Puis même Mitch mentionne le fait que les Autochtones, il y avait des trucs circulaires, je sais pas, comme la danse de la pluie là, où ils tournaient en rond. Puis tu as cette idée-là d'aller de mettre de l'ordre, mettre plein de carrés dans le monde chaotique en prenant de l'expansion vers l'Ouest.
Est-ce qu'il sait que nous, on appelait les Anglais les têtes carrées? Je sais pas s'il sait que les francophones, on les appelait comme ça.
j'ai un oncle irlandais d'ailleurs. Là, puis tu sais, quand il a marié ma tante, quand j'étais assez petit, là. Puis j'avais entendu, je sais pas c'est qui, dans ma famille, les gens disaient que c'était une tête carrée parce que c'était un Anglais, tu sais. Puis j'étais petit, je sais pas, j'avais peut-être une dizaine d'années, là. Puis là, quand je l'ai vu, apparemment, j'y ai dit assez rapidement, ou comme à du monde autour, là, il y a même pas la tête si carrée que ça, finalement.
C'est vraiment drôle. C'est vraiment bon, c'est vraiment bon. Ouais, c'est sûr que les Britanniques sont carrés, ça c'est clair.
Autre chose que je peux mentionner sur l'expansion, c'est quand même un symbole intéressant parce que c'est encore avec nous aujourd'hui. Puis je pense que dans tout le Canada, c'est peut-être une des seules choses qui nous unifie, mais c'est le hockey, là, parce que c'est vraiment un bon sport pour représenter qu'on réussit à dominer la nature difficile au Canada. C'est un sport d'équipe où les bagarres sont tolérées d'habitude, là. Il y a le fait que on peut jouer souvent l'hiver aussi. Il y a comme une façon de faire un jeu avec quelque chose qui est dangereux, qu'on voit dans le hockey. Puis ça reste quand même un des symboles canadiens les plus importants, là, que les gens comme aiment pour vrai, là, puis qui écoutent pour vrai. C'est comme au niveau de la participation, peut-être, là, c'est la seule chose qui me semble le plus regrouper l'ensemble du Canada, français ou anglais, etc.
Oui, c'est définitivement vrai. Puis c'est intéressant aussi de penser qu'il y a comme un... Tu sais, c'est intéressant des fois de voir des images qu'on a, tu sais, du Canada, puis des contre-images ou, tu sais, des genres d'ombre que l'image apporte, que, tu sais, le Canada est toujours vu comme étant l'endroit paisible, tu sais, les gens qui sont polis, qui font la paix, puis qui veulent pas trop de conflits, tu sais, mais tandis que notre sport national, c'est peut-être le sport le plus violent à part le rugby, là. Puis c'est assez fascinant de voir ça, tu sais. Puis en effet, tu vois, moi, j'avais jamais pensé au fait que c'était aussi un sport qui représente la domination du froid, tu sais, la domination de la nature, dans le fond. Mais en effet, c'est vrai que ça semble vraiment être ça.
Après ça, là, on arrive dans l'histoire plus récente du Canada. Puis ce que Mitch va dire, c'est que c'est le genre de domination-là qu'on avait vers la nature, on finit par le tourner vers nous-mêmes ou, disons, vers notre histoire. Puis là, le Canada commence à... on va changer nos symboles. Selon lui, ça a commencé avec le Québec. On se tourne contre notre histoire puis on essaie de faire une nouvelle histoire. Fait comme on a fini, disons, de coloniser de l'Orient vers l'Occident, puis on recommence, là, on essaie de réfacer puis recommencer. Fait au Québec, révolution tranquille. Puis dans le reste du Canada, c'était moins intense, mais il voit quand même un peu dans le fait qu'on va changer quand même le nom d'un paquet de choses pour se distancer de l'Empire britannique, là. Au lieu d'être, je sais pas, Dominion Day, ça veut dire Canada Day, puis on va se distancer, disons, de notre histoire britannique, puis essayer de recommencer un peu le Canada en tant que tel, disons, sur ses propres pieds.
Oui, mais c'est intéressant. Mais ce qui est intéressant avec ça, c'est que il y a comme une faiblesse, tu sais, dans notre imagerie, tu sais, parce que, tu sais, la fédérable, c'est pas rien, tu sais. Je m'excuse, mais c'est une fédérable. Il y a pas l'imagerie, disons, tu sais, quand tu penses au drapeau américain, par exemple, tu sais, tu comprends l'histoire qui est derrière, tu sais, tu comprends la aussi le progrès du drapeau, comme le drapeau révolutionnaire, comme le drapeau des colonies qui s'unissent finalement pour se joindre à l'Union. Puis beaucoup des drapeaux des pays, si tu regardes le Union Jack en Angleterre, tu sais, c'est un drapeau qui est plein d'histoire, tu sais, qui fait juste continuer l'histoire. Tu sais, le drapeau de la France, c'est le drapeau de la Révolution. Tu sais, le drapeau du Canada, c'est comme un... Comment je pourrais dire? Ouais. C'est comme un, je sais pas, un designer ou, tu sais, c'est... On sait pas c'est quoi, tu sais, ça dit, il y a quelqu'un, un année, qui a designé le drapeau dans les années 50-60. Je me souviens pas exactement c'est quand, c'est pas si longtemps, d'ailleurs. C'est un peu la même chose avec le drapeau du Québec. T'sais. C'est fascinant parce que les choses qui nous restent un peu fortes, on ne sait pas quoi faire avec. C'est vraiment fascinant. T'sais, les gens ne connaissent pas. Récemment, j'étais à un événement où on m'a demandé de chanter l'hymne national du Canada en anglais. T'sais. Puis j'ai chanté l'hymne national. Puis là, j'ai dit, vous savez rien sur cet hymne-là si vous l'avez jamais entendu en français. Quand tu entends l'hymne national en français, puis tu sais qu'elle a été écrite en français, tu te dis, c'est qui ces gens-là? C'est pas nous! C'est qui ces gens-là? Tu sais, qui dit qu'on sait porter la croix, qu'on sait porter l'épée. Tu sais, c'est comme, OK, je sais pas c'est qui ces gens-là, mais en tout cas, c'est pas nous.
Hein. Ouais. c'est intéressant. C'est vrai que c'est bizarre, la feuille d'érable, c'est pas très fort. À la limite, sinon, si on voulait prendre quelque chose de naturel, j'aurais peut-être pris le castor, parce que ça, je trouve, c'est quand même une bonne image de, au moins, c'est discipliner une nature pas facile, se faire une maison, c'est un peu...
Je pense que c'est notre animal national, c'est le castor.
Ouais.
Mais tu sais, ce serait bizarre de le mettre sur un drapeau. Là. Ce serait comme, je sais pas de quoi ça
devient. On se voit comme des castors. Ouais, peut-être, ce serait peut-être bizarre.
Aïe, aïe, aïe. Ouais. Mais tu sais, ça va être fascinant encore de voir ce qui va arriver dans la prochaine année ou deux, tu sais, avec le désir de l'Alberta de possiblement quitter. Puis, tu sais, l'espèce de renouveau nationaliste qui se fait au Québec. Ça va être intéressant parce que, tu sais, même au moment, tu sais, les gens qui connaissent pas l'histoire un peu du Québec, mais tu sais, pendant les moments de nationalisme québécois, surtout au dernier référendum, tu sais, c'était vraiment l'Alberta qui était en réalité, qui était, comment je pourrais dire, un peu comme l'opposition du Québec, un peu comme dire, ben là, tu sais, je dis, allez-y, là, si vous voulez partir, nous, on s'en fout, on va pas faire des compromis pour vous, on va pas, tu sais, puis. C'est juste fascinant que là, on revient à ce moment-là où l'Alberta,
Vraiment.
il peut comme céder, tu sais, puis le Québec, tout d'un coup, il recommence à parler de sa nation.
Au Québec, ça va être intéressant, là. Ça, je comprends pas encore bien c'est quoi les raisons profondes derrière.
Non, mais les raisons profondes derrière, c'est de comprendre, tu sais, pour quelqu'un qui a juste un peu d'intuition, de comprendre que la nation québécoise est vouée à l'extinction. Tu sais, je veux dire, si tu es juste attentif légèrement, puis tu fais juste regarder les changements politiques et démographiques, tu réalises que la nation du canadienne-française, elle est vouée à l'extinction. C'est peut-être une génération, deux générations, trois générations. On ne sait pas combien de générations ça va prendre, mais c'est ça qui va arriver. Et donc, les gens qui ont une sorte d'attachement à cette identité-là, puis ils voient le problème, ben là, ils commencent à réagir, tu sais, puis ils commencent à dire, ben là, ils cherchent une façon de se protéger, de s'identifier, de se perpétuer. Mais le problème, c'est ça, c'est, tu sais, le problème, c'est que le problème est plus profond que la nation. C'est la nation, c'est secondaire à des identités qui sont plus profondes. Puis là, si tu élimines les choses plus profondes, mais t'sais, la nation, à un moment donné, on la comprend plus, t'sais. Puis on voit la même chose arriver partout en Europe, c'est pas juste ici. Puis donc, c'est normal qu'il y ait comme des résistances, puis les gens, ils veulent, ah non, OK, on voit là, on va juste disparaître. On va juste disparaître dans un bouillis de culture américaine. On veut résister, mais on n'a pas grand-chose pour résister à part la langue. Tout.
Ben,
C'est à
c'est
peu
ça le
près tout.
défi.
T'sais, sinon.
Ouais, je vois ça comme un problème un peu à deux niveaux. Mettons, j'ai l'impression que la première intuition que je vois chez les gens, c'est comme tu dis, OK, on est en train de comme disparaître démographiquement le Québec. Entre autres, un truc que j'entends souvent, c'est parce que Ottawa impose trop d'immigration au Québec, fait qu'on se fait étouffer. Mettons, si ça arrêtait là, je trouve que ce serait pas très fort comme argument parce que j'ai l'impression que, tu sais, OK, tu vas peut-être devenir, mettons, le Québec devient indépendant puis il arrête l'immigration. Mais j'ai l'impression que maintenant, il n'y a plus personne au Canada qui aime ça l'immigration. On dirait que tout le monde veut l'arrêter dans plein de provinces, là. Fait que j'ai pas l'impression qu'Ottawa va nous en imposer tant que ça, là. J'ai l'impression qu'ils ont comme décidé d'arrêter parce qu'ils voient bien que le monde va pas voter pour eux. Fait que, si c'est juste ça, j'ai pas l'impression que, tu sais, c'est comme, OK, mettons, on arrête l'immigration. Ah, oh, ben, finalement, le Canada fait aussi. Puis après ça, qu'est-ce que tu fais? Fait que ça,
Mais
c'est comme
qu'est-ce que
le
tu fais?
deuxième
Surtout, t'as
niveau.
pas d'enfant. Tu sais, je veux dire, tu veux arrêter l'immigration, mais tu veux pas avoir d'enfant. Tu sais, c'est comme, OK, je m'excuse, mais ça marche pas, tu sais, ton calcul, il fonctionne pas. Et puis là, c'est pour ça, c'est surprenant, tu sais, j'ai vu, là, c'est vraiment rentré dans la politique québécoise, mais tu sais, j'ai vu Duhem, tu sais, notre conservateur québécois, qui fait l'apologie de la famille traditionnelle, qui fait l'apologie de la famille, tu sais, c'est vraiment, on est vraiment dans le trouble, Jean-Philippe.
Mais c'est drôle parce que, tu sais, pour les gens qui le savent pas, si je me rappelle bien, Éric Duhaime, il est en couple avec un autre homme, là.
Oui,
Il est pas,
c'est
c'est
ça.
ça? Il aura pas d'enfant, là.
C'est le seul conservateur qu'on peut avoir au Québec. C'est
Pour l'instant, en
ça.
tout cas, là.
Oui, c'est ça. C'est ça, oui.
Mais comme on a déjà parlé ici puis en anglais, je pense que ça va quand même se régler juste par sélection naturelle si on ne le règle pas nous-mêmes, là. Les gens qui vont rester puis qui auront des familles, c'est eux qui vont, après ça, comme repartir le prochain monde. Fait que, je suis quand même optimiste à long terme, mais c'est vrai que à court terme, on est quand même dans le trouble. J'ai l'impression que ça sera pas chic pendant une couple de générations, puis après ça va commencer à remonter.
Ouais, tu sais, puis tu sais, c'est difficile. Comment je pourrais dire? C'est comme, tu sais, moi, je confesse souvent mon sorte de mon, mon, mon ma frustration, tu sais, envers ma propre origine. Là, j'ai comme une sorte de frustration. Tu sais, pour moi, l'identité québécoise n'est pas suffisante. Tu sais, C'est-à-dire, j'ai une fierté d'être Canadien français, j'ai une fierté de mon histoire, il y a tout ça, mais si tu me dis, c'est comme ce qui est important, c'est comme qu'on ait une nation québécoise séculière de la façon dont la CAQ voudrait qu'on soit séculier, ben ça m'intéresse pas. Je ne veux pas me battre pour ça, en tout cas.
Ouais, ouais.
Je veux pas. C'est ça. Je suis chrétien d'abord, là, avant d'être un Canadien français.
Oui, je suis d'accord. Là. C'est comme ça que je le vois pour l'instant. Mais ce que j'espère, là, comme mon projet, pourquoi je suis prêt à écouter des douzaines d'heures de livres de Samuel de Champlain, c'est que.
Génial.
Ce que j'espère, là, c'est que. Pour l'instant, il y a comme deux choses. J'ai l'impression, à cause d'arguments métaphysiques et théologiques, je suis vraiment comme confiant de mon identité de chrétien. Puis. Après ça, tu sais, je fais des choses concrètement day-to-day pour avec ma famille puis ma communauté proche qui marche avec cette identité-là. Puis on dirait ce qui se passe à tous les niveaux intermédiaires pour l'instant, je m'en fous comme un peu là. J'essaie de connecter ça. Puis le problème pour l'instant là, c'est que je vois pas encore de connexion, disons historique là. Je commence à apprendre un peu sur comment le Canada a été fondé. Puis ça, Champlain, ben c'est toi qui m'avais aiguillé vers Champlain. Là. Je pense que c'est vrai que c'est un personnage assez impressionnant. Les premiers livres que j'ai écoutés de lui, là, c'était Ruff, par exemple. Au début, il fait juste décrire la géographie parce que il arrive puis tout est nouveau.
Ah, t'écoutes ses écrits à lui.
Ouais.
C'est vraiment courageux. Pas une sorte de synthèse ou quoi que ce soit. Là.
Non, j'essaie d'écouter vraiment ça. Puis le début, c'était Ruff. À un moment donné, ça devient intéressant. Mais les premiers voyages, là, c'est, si jamais il y a des gens qui veulent faire ça, là, les premiers voyages, il faut juste comme au pire passe vite à travers là, parce qu'il fait surtout décrire la nature, la géographie. Fait que, c'est quand même plate. Là. Mais à un moment donné, quand on arrive dans les livres plus tard, il passe plus vite sur la géographie, la nature parce que il l'a déjà fait. Puis il commence à parler plus de les relations avec les Autochtones, comment il essaie de fonder telle chose, les voyages qu'il fait, comment il va en guerre avec les Autochtones, puis là, ils sont tous désordonnés. À un moment donné, des fois, c'est juste drôle. Là. Fait que en tout cas, ça finit par être le fun, mais. Je pense que le problème, c'est que j'ai comme jamais reçu d'éducation intéressante sur qu'est-ce qui se passe entre les premiers colons catholiques puis aujourd'hui. C'est comme à cause de la Révolution tranquille, on dirait tout effacé ça. Puis oui. C'est juste, il n'y a rien dans ma tête là, qui a collé. Il faut réussir à faire une histoire intéressante, je pense, qui connecte tout ça. Puis là, ça va être plus clair comment je peux connecter mon identité catholique avec la nation québécoise puis avec ma communauté, etc.
Oui, puis c'est ça. Puis, tu sais, je pense que, tu sais, même il y a quand même des projets intéressants en ligne avec ça, de le faire aussi, tu sais, après que tu le fais pour toi, tu sais, de travailler avec d'autres, avec moi, avec d'autres personnes pour qu'on le fasse pour les autres aussi, parce que, tu sais, mes enfants, ils auront pris l'histoire du Québec à tous les ans, quasiment depuis leur primaire. Je pense qu'il y a une couple d'exceptions, c'est presque juste l'histoire du Québec, puis ils savent absolument rien. Ils ont appris zéro, ils savent rien. Parce qu'il y a une genre de haine secrète, en fait, de notre histoire qui est inclue dans les cours d'histoire. Tu sais, il y a comme une sorte d'embarras devant qui on est, qu'est-ce qu'on a fait, les raisons pour lesquelles les gens sont venus ici. Puis au lieu de parler des gens qui ont fait le pays, on fait juste parler des traités puis des événements politiques. Tu sais, comme si un enfant de 14 ans, 15 ans, il peut se rappeler ou s'intéresser à des traités puis des fondations. C'est vraiment tellement nul. Fait que ça pourrait être un grand service qu'on pourrait faire aussi pour le Québec, là, ou c'est pour le Canada, de raconter l'histoire de façon intéressante.
On va essayer de faire ça. Mais c'est intéressant, c'est comme un autre des endroits où on dirait le monde séculier, matérialiste s'effondre, parce que si tu essaies de juste raconter plein de faits à des enfants, mais personne ne s'en rappelle. C'est après ça, personne ne connaît cette histoire-là. Puis si quelqu'un réussit à connecter les faits de façon intéressante, ben les gens vont s'en rappeler, puis ça peut quand même aller vite après. Là. Au moins, c'est ça l'espoir. Fait que faut juste étudier ça, puis réussir à connecter de façon intéressante.
Ah, mais je suis content que tu t'es lancé dans cette aventure, j'en fais.
Je suis content d'avoir passé le début. Là. Au début, c'était plat. Mais là, ça commence à être intéressant. Bon, ben, sur ce, merci beaucoup, Jonathan. Merci tout le monde. Puis on va se revoir dans quelques semaines pour le prochain.
Salut tout le monde.